Je suis dans cet intérieur, dans cet appartement, chez Thomas Claire. Bonjour,
Bonjour.
merci de me recevoir. Nous parlons d'intérieur, votre nouveau livre chez Gallimard dans la collection L'Arbalète, un livre de quasiment 400 pages qui parle, c'est écrit sur votre intérieur, à savoir votre appartement dans lequel nous sommes présents. Première question serait quel est le projet de votre livre, si vous pouviez le présenter, et après nous irons vers des questions théoriques.
Eh bien, c'est très simple, hein. Finalement, c'est un livre dont le propos, dont l'argument, hein, comme on disait autrefois, le pitch, maintenant, comme on dit, mais je ne valide pas ce terme, mais enfin, est très simple, puisqu'il s'agit de décrire l'appartement dans lequel je vis, l'endroit dans lequel je vis, qui est un appartement à Paris de 50 mètres carrés, dans lequel je vis depuis 2001. C'est un projet en fait assez ancien qui remonte même à l'acquisition de cet appartement. J'ai toujours été passionné par le fait de vivre chez soi, enfin au sens où je m'intéresse, j'aime être chez moi d'abord, et je trouve toujours intéressant de voir les conditions concrètes d'existence des gens. Et donc on pourrait considérer que mon projet est un projet très personnel, et en même temps il est assez, je pense, ouvert à tous, puisque la plupart d'entre nous avons la chance d'avoir un toit, sous quelque forme que ce soit, une maison, un appartement, etc. Donc j'ai voulu décrire pièce par pièce. Il y a deux, trois pièces en langage immobilier, mais il y en a en fait sept si on prend les pièces une par une, c'est-à-dire l'entrée, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, le salon dans lequel nous sommes, le bureau et la chambre. Ce qui fait que toutes les pièces sont décrites une par une. En fait, il y a donc en quelque sorte sept chapitres, et à l'intérieur de chacune de ces pièces, le texte se compose de fragments. Qui correspondent au regard que je pose sur les différents espaces, les différents objets et la relation surtout que j'entretiens avec cet appartement qui est le mien. Donc l'idée c'était vraiment de décrire aussi fidèlement que possible un endroit que j'aime, puisque j'aime être chez moi, mais que je ne, comment dire, que je ne regardais pas forcément, c'est-à-dire au sens où lorsqu'on habite quelque part, on n'a plus véritablement, notre regard est un peu anesthésié parce qu'on habite et on ne regarde pas vraiment l'endroit où on habite. Et c'est peut-être là l'origine du projet, qui donc est un projet pour moi très fortement littéraire, au sens où il faut apprendre à regarder de nouveau le familier.
Il y a la question du parcours qui se pose, en tout cas moi que je me suis posé en tant que lecteur de votre livre, Thomas Claire, Intérieur. C'est un parcours pièce par pièce,
Oui.
c'est un choix dès le départ de se dire, voilà, je commence pièce par pièce par la porte d'entrée, en s'éloignant petit à petit de la porte d'entrée. Il y avait d'autres tentatives possibles. Est-ce que vous avez tenté d'autres possibilités de parcours de votre appartement avant de définir celui-ci?
Oui, c'est effectivement, il y a plusieurs possibles, comme vous le dites, pour décrire l'endroit dans lequel on vit. Il y aurait eu une autre possibilité que j'ai tentée, qui était de faire le tour, non pas pièce par pièce, mais de faire le périmètre de l'appartement, c'est-à-dire de suivre finalement le tracé des murs. Mais cela relevait finalement d'une très grande difficulté, car à ce moment-là, on oblitère en quelque sorte la fonction de chaque pièce. Pour tout concentrer sur le regard. Et à ce moment-là, ça devient très difficile parce qu'on est à la fois dans un endroit et on regarde un autre. À ce moment-là, ça aurait, je pense, rendu la description plus confuse, peut-être plus kaléidoscopique, et donc peut-être un petit peu comme ce que j'avais fait dans le 10e arrondissement, où finalement tout était mêlé. Et là, j'ai voulu au contraire clarifier mon appartement. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi pièce par pièce, car je pense que il fallait rendre hommage finalement aux qualités, au sens neutre du terme, aux qualités de chaque pièce. Et l'idée pour moi, c'est qu'il n'y a pas une pièce plus importante qu'une autre. Même si on peut supposer que le bureau ou la chambre sont des pièces importante, comme dans un roman il pourrait y avoir des moments phares, finalement, des moments, des climax, eh bien, je suis parti d'un principe assez démocratique, je pense, qui est que chaque pièce avait son intérêt et que la cuisine, qui pourtant est extrêmement modeste dans mon appartement, c'est une cuisine américaine qui n'est même pas une pièce en elle-même, qui est un peu minorée, pouvait être aussi intéressante à décrire que ma penderie ou ma bibliothèque. Donc, pas de différence, une égalité finalement de traitement entre les pièces. Ça, je tenais absolument à cela.
Parce qu'on sent à un moment donné, c'est page 220, quand vous évoquez votre bureau, on est dans la pièce du bureau, et vous l'avez tenté dans la pièce du bureau, je vais vous lire. Tire au dé. Pour résoudre ce dilemme, je me propose de tirer au dé l'objet de ma description initiale. Le bureau s'y sort 1, 2, 3. La bibliothèque 4, 5, 6. Où trouver un dé? Ah, j'en ai un. Cadeau de Julien Prévieux, un artiste qui aime jouer de bons tours. C'est un dé rond. Il me semble que je dois posséder quelque part un dé normal. Le vague souvenir me vient d'un jeu de 421, peut-être placé dans un coin oublié de la cuisine. La caisse à vin au produit d'entretien, oui, peut-être. Vous avez tiré au dé.
Vous êtes un lecteur attentif, car effectivement, l'une des difficultés, il y a eu des difficultés en cours de l'écriture, évidemment, de ce livre. Je me suis rendu compte que être dans son appartement n'était pas une mince affaire. Et pour le bureau, j'ai longuement hésité. En effet, je me suis dit, est-ce que je dois commencer par décrire la bibliothèque, ou bien le bureau, c'est-à-dire le meuble principal. Autrement dit, est-ce qu'il faut commencer par décrire le monde des livres, qui est évidemment le monde que je préfère, ou bien le monde sur lequel j'écris des livres. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il fallait décrire le produit fini, la bibliothèque, ou bien le processus, le bureau. Et ça, ça a été véritablement, pour ça que vous... Le passage que vous avez choisi est révélateur de cette hésitation. Et là, j'ai imaginé finalement ce tir au dé pour pouvoir trancher une question que je ne savais pas trancher. Car finalement, quand j'ai abordé le bureau, je ne savais pas par où commencer finalement. Puisque les deux meubles principaux finalement du bureau sont le bureau en tant que tel et la bibliothèque. Le bureau étant une pièce évidemment particulière puisque c'est une métonymie. Le bureau désigne à la fois la pièce dans lequel il y a évidemment le bureau, donc l'objet sur lequel on travaille. Et finalement, j'ai choisi le bureau meuble, de commencer par le meuble, par rapport à la bibliothèque, parce que j'ai valorisé finalement le processus sur le produit fini, et que d'écrire la bibliothèque était évidemment une entreprise extrêmement compliquée, que j'ai résolue un petit peu par un tour, je dirais, pour reprendre l'expression « jouer un bon tour », voilà, j'ai un peu botté en touche par rapport à la bibliothèque.
Sur l'entreprise intellectuelle de votre livre, Thomas Clair, Intérieur, il y a un dispositif, bien sûr, c'est l'enjeu de... Il y a un enjeu avec ce dispositif. Vers la fin de votre texte, vous écrivez « J'écris une poésie de la propriété. La violence possessive m'habite. » Et Intérieur peut se lire par tout ce qui m'appartient. « Ceci est ma propriété. » Et j'en fais le tour. Et s'il y a alors un effet de poésie, ça pourrait être une ode à la propriété.
Oui, vous mettez l'accent sur le côté un peu polémique du livre, et vous avez raison. Je considère que l'avoir, la possession, le fait de posséder, est lié à une certaine forme de plaisir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un plaisir à posséder. Ce qui est assez peu, me semble-t-il, décrit en littérature, ou en tout cas, peu d'écrivains en font l'aveu, puisque la littérature est plutôt généralement du côté de l'être, de la métaphysique, sans parler de la philosophie. Mais il me semble que mon entreprise dans l'intérieur est de redonner une légitimité à l'avoir. Car l'avoir, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est tout ce avec quoi nous avons un rapport matériel, affectif. Et dans une société bourgeoise capitaliste comme la nôtre, eh bien, on ne peut pas faire l'impasse sur l'excitation que procure le besoin de propriété, qui est évidemment une excitation éventuellement condamnable par certains systèmes de pensée, je pense au marxisme par exemple, mais le marxisme avait bien compris que la propriété était quand même fondamentale dans la constitution même de nos sociétés. Par conséquent, il y a une certaine hypocrisie, je trouve, lorsque les écrivains, au lieu de nous emmener chez eux, finalement, nous parlent de tout à fait autre chose et font comme si ils n'étaient propriétaires que de mots et non pas de choses. Enfin, ils ne disent pas propriétaires de mots, mais comme s'ils ne faisaient qu'un usage des mots, alors que je crois que les mots et les choses, finalement, sont liés. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas, finalement, une volonté... Enfin, il y a eu un désir chez moi très fort de voilà, de rendre hommage à certaines, à certaines, à cet instinct finalement, on pourrait dire, de la possession. Avec évidemment toutes les critiques aussi que l'on peut faire par rapport à ça. Mais j'ai voulu rendre compte de cela.
Et alors il y a le mot matérialisme
Oui,
qui va venir,
absolument,
parce que si on continue sur cette
oui,
voie
tout
de,
à fait.
pourquoi pas de la poésie,
Oui,
vous dites que j'écris une poésie
oui, oui.
de la propriété,
Oui.
ça serait une poésie éminemment
Oh,
matérialiste.
absolument, absolument. Je suis fondamentalement matérialiste. D'ailleurs, je viens à l'instant de dire, de montrer qu'il y a quand même une jouissance dans la propriété, ce que je crois absolument. On vit quand même dans une société de consommation, il faut arrêter de croire le contraire. Et donc, mais je suis matérialiste. Je suis matérialiste au sens où je ne crois pas à la transcendance. Je suis absolument, Dieu n'existe pas pour moi. Donc, le matérialisme est évidemment un terme pour moi dans lequel, enfin, dans lequel je me reconnais, dans lequel beaucoup de gens également peuvent se reconnaître. Et le matérialisme, c'est au fond le fait de voir les choses sans, dans leur immanence, dans leur immédiateté. Nous sommes environnés finalement d'objets concrets, d'objets sans, et d'objets matériels, et vis-à-vis desquels nous pouvons entretenir une relation finalement assez passionnelle, je pense. Et donc voilà le côté. J'essaie de produire une littérature matérialiste en ce sens où j'attire l'attention du lecteur sur le fait que nous sommes dans un monde de produits, de choses, d'objets fabriqués et qu'il n'est pas du tout question de le déplorer.
Et alors, pourrait-il aussi s'agir, dans votre livre intérieur, Thomas Claire, d'un traité, de décoration? Je m'explique. Vous mettez doublement sur cette voie, par la citation de Mallarmé, bien entendu, la décoration, tout est dans ce mot, puis par la dédicace à votre arrière-grand-père, décorateur et peintre d'objets religieux. Avez-vous pensé également à une sorte de traité de décoration? Est-ce que cela pourrait être sous-jacent à l'intérieur?
Tout à fait, tout à fait. C'est pareil par rapport aux objets. La décoration est quelque chose qui me semble très important. Regardez par exemple le succès des émissions de télévision sur ce sujet, par exemple, qui est assez symptomatique, hein, d'ailleurs. La décoration, ça me touche parce que c'est quelque chose qui, justement, est à la fois très subjectif, très singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus personnel, finalement, que la façon dont nous avons d'aménager notre espace. Et en même temps, c'est quelque chose de totalement collectif. C'est-à-dire, c'est un problème qui se pose à toute personne, quel que soit son rang social, quel que soit son investissement. Là-dedans, il y a toujours, finalement, une part des grands problèmes qui se posent. Est-ce qu'il faut que j'accroche des choses sur les murs? Est-ce qu'il faut que je sature mon espace ou non? Comment dois-je disposer les meubles? Est-ce qu'il faut mettre de la couleur ou pas? Enfin, bref, tout un ensemble de problématiques qui, à mon avis, touche tout le monde dans le fait que, par le fait que les gens sont attachés justement à imprimer à leur maison une part de leur être. Et cela me touche beaucoup. Cela me touche beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose dans laquelle il y a une liberté du sujet. Il y a une liberté du sujet qui se manifeste dans l'art décoratif finalement. J'ai voulu encore une fois aussi enlever les connotations négatives du mot décoration, car bien sûr, on pourrait dire le décoratif, l'ornemental, ce sont des choses secondaires, ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui sont moins importantes que le conflit israélo-palestinien ou des tas de choses comme ça. Mais eh bien, non, je crois que ce sont des choses très importantes parce que ce sont des choses sur lesquelles il y a un investissement du sujet. Au fond, pour moi, la littérature est une singularité à la puissance infinie, et la décoration d'un appartement, c'est un peu la même chose. Il y a cette espèce de comment dire, oui, de liberté qui se manifeste, qui est à la portée, on pourrait dire, de chacun de nous.
Et alors, pour évoquer ces objets, cette décoration, on passe par la description, c'est le procédé littéraire, le procédé narratif, on fait une description, il y a un art de la description. On va prendre un exemple, je vais lire un extrait. Fiat Lux, on est dans l'entrée hein, de votre appartement. Un interrupteur situé sur la gauche commande l'éclairage de la pièce, afin qu'entrant dans l'appartement, on soit le moins tardivement possible au contact de la lumière. L'instrument de convergence entre technique et poésie, entre l'exécution et l'idée, s'appelle interrupteur et non déclencheur. Nous vivons donc dans les ténèbres, nous cherchons la lumière. Une pression de main et le couloir apparaît. 3,30 m de long, de luxe, sur 1 de large. Sur ses murs blancs, sa fenêtre à droite, son parquet, ses deux portes successives sur la gauche et l'ouverture au fond, barrée par une nouvelle pièce de tissu. Vous prenez un soin particulier aux descriptions. Vous y développez une art. Avez-vous été tenté par cela, par faire un art de la description?
Ce qui m'intéressait d'un point de vue littéraire, c'était l'espèce de défi, à partir du moment où je m'étais fixé l'idée de projet, disons, de décrire précisément les choses, il fallait trouver les moyens d'approcher les objets de façon précise, de façon à la fois précise et poétique. J'ai des devanciers illustres dans ce domaine, tel Francis Ponge par exemple, qui est l'une de mes influences, une influence cachée, secrète. Le parti pris des choses est évidemment un très beau livre. Et donc, pour décrire un interrupteur, ben voilà, j'ai d'abord essayé de regarder par exemple le mot lui-même sur lequel je ne m'étais jamais interrogé, l'objet que finalement on ne regarde pas mais qu'on utilise. Et puis tout à coup, je me suis dit effectivement pourquoi appelle-t-on ça un interrupteur? C'est-à-dire c'est couper la lumière alors que finalement on déclenche aussi la lumière. Vous voyez, toutes sortes de choses. Finalement, cette espèce d'apparence qu'il faut dépasser, il faut dépasser finalement l'apparence des choses et des mots pour arriver à trouver une espèce d'épaisseur. Alors que ce sont des objets que nous ne regardons plus ou sur lesquels nous nous interrogeons assez peu. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'être à la fois, de décrire le plus précisément l'objet et de dépasser les limites de l'objet, c'est-à-dire d'aller plus loin. Au fond, il y a une sorte de va-et-vient dans le texte entre une sorte de précision et peut-être une poésie qui consiste à dépasser, à transcender l'objet ou en tout cas à l'emmener ailleurs. Voilà, par exemple, dans cette petite réflexion que je fais sur l'interrupteur, qui tout à coup, montre que finalement, c'est un objet de coupure, l'interrupteur, finalement.
Vous avez parlé de Francis Ponge, effectivement, cette référence est sous-jacente au texte, vous ne le nommez pas, mais néanmoins on y pense, c'est logique. Comment ça, enfin, est-ce qu'il a fait partie de votre réflexion pour ce livre-là? Vous avez relu des textes de Ponge? Comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, on sait, on sent, et puis on sait que vous êtes éminemment cultivé. On sait, Thomas Clerc, que forcément, il y a une relation avec Francis Ponge pour ce type de projet-là.
Ponge n'a pas, je n'ai pas trop relu Ponge pour le livre. Il y a beaucoup de références d'ailleurs dans l'intérieur, tout simplement parce que les écrivains font partie de mes meubles, si je puis dire. Pour moi, un écrivain, mais encore une fois, le meuble est vivant, hein, pour moi, si on a bien compris le projet. C'est-à-dire que voilà, les écrivains font partie presque comme des matières vivantes de mon imaginaire et donc et également de mon intérieur, puisque j'ai une bibliothèque où je les accueille bien volontiers. Et donc, voilà, l'influence directe de Ponge n'est pas enfin l'influence de Ponge n'est pas directe, n'est pas immédiate, fait partie d'un bain, on pourrait dire, psychologique et matériel dans lequel je me trouve imprégné. Alors Ponge évidemment fait plus des poèmes, hein, des poèmes en prose. J'ai parfois cette tentation, mais je reste, disons, plutôt dans cette tension que je disais à l'instant, entre précision et dépassement des limites de l'objet.
Parce qu'il y a aussi cette réflexion que vous menez, je vous cite. Car en dépit des apparences, ce livre n'est pas une simple photo de mon appartement, mais aussi sa graphie.
Oui, c'est-à-dire que le livre est tendu entre deux exigences, une exigence visuelle, le côté photo, donc. Un artiste que j'aime beaucoup, Sol Lewitt par exemple, a pris en photo, un artiste conceptuel, a pris en photo tous les objets de son appartement. C'est une des sources aussi qui m'a intéressé. Ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs également pour ce texte, je le mentionne à un moment donné. Donc le côté visuel des choses. Mais évidemment, ce n'est pas simplement une plate photographie, c'est aussi une volonté d'ornementer, de décorer en quelque sorte l'appartement par un soin apporté au langage, c'est-à-dire une manière de rehausser un appartement qui, faut-il le signaler, je ne l'ai peut-être pas indiqué, est relativement modeste, enfin, n'a rien d'extraordinaire. Il est relativement, sa surface n'est pas très grande, il n'a rien de fantastique, cet appartement. Donc je voulais aussi lui donner une espèce d'épaisseur par le biais du langage, ce que j'ai essayé de faire en travaillant la langue, en étant à la fois clair, précis, et en même temps, j'ai parfois frisé un style, parfois ornementé, sophistiqué par moments.
Avec par exemple un jeu de langage qui revient toujours, le 1 en chiffres, qui remplace le 1 ou le 1 en lettres. Alors, au
Voilà.
début, on se surprend quand on est dans l'entrée, on se dit que
Oui.
c'est peut-être spécifique à
Oui.
l'entrée,
Oui.
mais on le retrouve tout au long
Oui.
de... Alors, je me posais la question de quelle signification lui apportez-vous?
Oui.
On sent aussi le côté matérialiste qui pourrait
Oui.
revenir, dire un verre,
Oui.
une chaise, n'est pas la même chose si on... l'écrit en lettres que si on l'écrit en chiffres. En
Absolument.
chiffres, on a affaire à la quantité.
Voilà, exactement. Donc j'ai neutralisé l'opposition donc entre l'article indéfini et l'article numéral, puisque enfin, en français, l'article indéfini et l'article numéral sont les mêmes, un et une. Et je voulais évidemment créer une petite illusion d'optique, on pourrait dire, encore le côté visuel des choses qui m'attire beaucoup, en faisant apparaître donc le chiffre au cœur des mots. Donc faire une petite opposition entre les chiffres et les lettres, si on peut dire, pour rendre hommage justement, oui, encore une fois, au caractère comptable qui gît au fond de chacun de nous, à mon avis, au caractère matériel, on peut dénombrer la possession. C'était vraiment faire apparaître, comme vous l'avez indiqué, cet aspect, disons, voilà, de la matière, du chiffre, de cet ensemble de choses. Il y a aussi le fait que un et une sont neutralisés également. Le féminin et le masculin, c'est aussi une autre entrée possible dans le livre. Et on ne sait pas si on doit lire un ou une, c'est le mot après qui va déterminer finalement le féminin ou le masculin.
Je souhaite maintenant, Thomas Claire, qu'on aborde l'entreprise littéraire. Comment qualifier cette entreprise littéraire dans l'intérieur? C'est une question que j'ai trouvée problématique dans votre livre. Et il y a plusieurs pistes possibles et j'imagine qu'elles sont venues peut-être toutes simultanément en même temps dans votre projet. Ma première question pourrait être, est-ce que c'est un livre sans fiction?
Tout dépend du sens que l'on donne au mot fiction, évidemment. Je dirais que ce n'est pas un roman. Je ne l'appellerais pas roman. D'ailleurs, je n'ai évidemment pas sous-titré roman. Au sens où ce n'est pas la construction d'une histoire avec des personnages fictifs, une intrigue, etc. J'ai assez peu de goût pour le romanesque en général. J'aime bien les romans sans romanesque. J'aime beaucoup À rebours de Huysmans, un roman dans lequel il ne se passe rien, ou le nouveau roman, etc. Donc des romans sans romanesque. Donc je ne peux pas considérer qu'il soit une fiction, au sens où ce n'est pas exactement un roman, mais plutôt une sorte de documentaire, si on peut dire, de documentaire sur l'endroit où j'habite et sur moi-même. Mais par contre, on peut dire que c'est une fiction si on considère que la fiction, dans son sens premier, c'est le fait de fabriquer à partir du langage une contre-réalité, une autre réalité. Je fais une autre réalité à partir d'une réalité. Voilà. Tout dépend finalement, du sens que l'on donne à ce mot. Il y a un sens dans fiction qui vient de fingere, qui veut dire fabriquer. Hein, je fabrique finalement un nouvel appartement à partir de mon appartement. C'est mon appartement et ce n'est pas mon appartement. Au sens où je le pousse au maximum de ses possibilités. De même que c'est moi et ce n'est pas moi. C'est moi, mais. Et je suis aussi un peu un personnage qui erre dans cet appartement, qui utilise ces différentes possibilités de manière, voilà, de manière un petit peu outrancière par moment.
Je me demandais aussi à quel registre appartenait ce projet. Est-ce que c'était un projet littéraire qui appartenait à la littérature ou est-ce que c'est un projet qui appartient au domaine de l'art contemporain, auquel bien entendu on sait que vous en êtes proche. Il y a beaucoup de références artistiques dans vos livres. Beaucoup d'artistes du XXe siècle sont dans votre livre. On a cité Julien Prévieux par exemple. Il peut être des deux. Je ne sais pas si vous voulez qu'il soit plutôt l'un ou plutôt l'autre. J'avais cette citation là sur la littérature. La littérature me touche parce qu'elle ne respecte rien. Alors à partir de là, bien entendu, on peut en faire un projet ambivalent à la fois littéraire et aussi proche de l'art contemporain. Et dans ces cas-là, ça ne s'appellerait pas un texte de fiction, mais peut-être une pièce.
Oui, avec l'ambiguïté du mot pièce.
Bien entendu,
Oui,
oui.
absolument. La littérature me touche parce qu'elle ne respecte rien. Oui, c'est une phrase qui m'est venue au cours de l'écriture du texte. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, elle ne respecte pas finalement les classements traditionnels. Et que j'espère que mon livre est de la littérature, mais j'espère aussi qu'il comporte une dimension expérimentale qui amène à modifier le regard que l'on porte sur la littérature. Au fond, pour moi, la véritable littérature est toujours plus ou moins expérimentale, au sens où elle cherche à se redéfinir elle-même. Et le lieu où l'art se redéfinit le mieux, c'est quand même l'art contemporain. C'est la raison pour laquelle les deux sont assez proches dans mon esprit. D'ailleurs, toute l'histoire du XXe siècle montre une association entre les avant-gardes artistiques et littéraires, et je trouve tout à fait normal de continuer ce dialogue, même si ce ne sont pas les mêmes enjeux, parce que moi je passe par le langage, je suis écrivain fondamentalement de ce point de vue-là, mais bien sûr, la littérature de recherche, enfin, toute littérature est une littérature de recherche. Toute littérature qui n'est pas de recherche ne m'intéresse pas. Je dirais même qu'elle n'est pas de la littérature. Donc, de ce point de vue-là, j'ai vraiment effectivement un engagement assez fort. J'essaie toujours de faire des choses qui remettent en question l'idée que l'on a de la littérature.
Dans ce projet-là, voilà, qui concerne la littérature et l'art contemporain, j'étais posé pour moi ce thème de l'autofiction. Forcément, Thomas Claire, on est dans votre intérieur. Cherchez-vous, alors le terme d'autofiction est complètement impropre à votre projet, mais cherchez-vous tout de même, de manière sous-jacente aussi, à écrire une autofiction, mais de l'habitat. Non pas de vous, mais de l'habitat.
Oui. Et on pourrait dire que c'est une sorte d'autoportrait à travers les composantes matérielles, c'est-à-dire encore une fois les espaces, les couleurs, les matériaux, les vêtements, etc. Donc je préfère hein, déjà le terme évidemment d'autoportrait à celui d'autofiction, qui est un terme évidemment beaucoup trop comment dire, problématique et que je rejette précisément à cause de son flou. Alors, une autofiction par le matériau, c'est-à-dire finalement, c'est un texte qui montre que la maison est toujours en construction et donc est toujours en élaboration. La maison n'est pas figée, l'appartement il n'est pas fait une fois pour toutes. Il commence à, comment dire, il vit et il est reconstruit par son usager de manière constante. C'est la raison pour laquelle il y a, on pourrait dire, une rénovation perpétuelle, j'espère, dans mon texte, du regard que l'on porte sur l'appartement. C'est-à-dire que voilà, le fait d'ouvrir une fenêtre va produire des sensations tout à fait différentes une fois sur l'autre. Et ce sont ces sortes de sensations que j'ai parfois essayé de décrire. Donc la maison n'est pas figée, elle n'est pas finie une fois pour toutes. On pourrait même dire que voilà, elle se perpétue, elle se dégrade, elle s'améliore sur certains points, elle change parce que le voisinage change, parce qu'un rayon de soleil va venir la fouetter ou au contraire le froid va l'envahir, etc. Donc la maison est un organisme vivant et en ce sens il est un peu à l'image pour moi de ce qu'est la littérature, encore une fois quelque chose qui est en perpétuel questionnement.
Parce que j'avais aussi ce problème, c'est que votre intérieur est devenu extérieur.
Alors,
J'imagine que vous avez forcément pensé à cette espèce de paradoxe d'appeler votre livre intérieur, alors que l'offrant à la lecture, il
absolument.
devient un extérieur
Tout à
et
fait.
presque votre intérieur, l'offrant à la lecture d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Il y a une forme d'extériorité qui va finir par atteindre votre intérieur.
Disons que le projet de départ est vraiment un projet de retrait, ou de retraite peut-être. C'est-à-dire vraiment se couper du monde. Parce que, on pourrait dire, en un sens, que la société dans laquelle nous vivons me déplaît. Donc il y a un geste un peu politique, d'une certaine manière. Une politique individualiste peut-être, mais pas tant que ça. Au sens où je suis fatigué de l'hystérie du monde. C'est-à-dire de toute cette. Enfin voilà, c'est cet environnement très pénible dans lequel nous vivons, sur lequel je ne veux pas m'étendre, mais enfin bon. Donc il y a l'idée de se retirer, un petit peu comme, voilà, je ferme à double tour, hein, cette idée de, pour pouvoir finalement recomposer et reconstruire son espace intérieur, ce qu'encore une fois, la société prive beaucoup de gens d'une possibilité d'une intériorité. Donc, premier geste, on se retire. Mais évidemment, il y a là une sorte d'ironie suprême que vous avez mentionnée, c'est que en fait, la coupure entre intérieur et extérieur est une coupure factice. C'est-à-dire qu'en fait, tout objet, n'importe lequel, finalement, si je regarde ce fauteuil, le fauteuil Colonel Moutarde, eh bien, ce fauteuil a une histoire. Je l'ai acheté dans certaines conditions. Je l'ai acheté dans un quartier de Paris. Je me souviens très bien de la personne à qui je l'ai acheté, etc., etc. Autrement dit, chaque objet a une interface avec le monde du dehors. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intériorité pure, mais il y a une intériorité qui est travaillée par le monde social, par le monde, voilà, par le monde extérieur. Et c'est ça qui est assez intéressant, je crois, c'est que, enfin, en tout cas, j'espère que mon livre n'est pas, comment dire, un pur, purement narcissique. Ce n'est pas du tout c'est mon appartement, bien sûr, mais ce n'est pas moi, moi, moi. Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas. Car, encore une fois, chaque objet est en interrelation, en corrélation avec le monde. Avec le monde extérieur. Il y a finalement de l'extérieur dans l'intérieur, dans l'intériorité. Ça, c'est quelque chose qui m'est apparu très, 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 très nettement. Et pour reprendre ce que vous avez dit, je dirais simplement que l'activité littéraire est toujours un don à autrui. Ça, c'est la définition de Sartre, d'ailleurs. La littérature est une générosité parce que écrire, on écrit toujours pour autrui. Et mon appartement, je l'offre aux autres en exposition, en quelque sorte. Mais de même que j'aime connaître et les intérieurs des uns et les livres des autres.